Alors, bon matin à vous tous, bon dimanche et surtout bonne et heureuse année, même si nous sommes le 13, mais comme ça a été dit, et comme nous avons préparé pour vous une toute nouvelle série, nouvelle année, nouvelle série, la meilleure année de ma vie 2019. Et en parlant de nouvelle année, on pourrait se poser la question, comment faire pour que 2019 soit la meilleure année de votre vie, de ma vie. Vous savez, quand on arrive à une nouvelle année, souvent les gens nous souhaitent, bien sûr, la santé. Hein? Vous allez entendre souvent, vous avez sans doute entendu cela, les gens qui vous ont dit, mais je vous souhaite la bonne santé. Mais c'est sûr que oui, c'est souhaitable d'être en bonne santé en 2019. Mais ce n'est pas de cela que nous voudrions vous parler ce matin. Il y a aussi des gens qui vont vous dire aussi, et tout ce que vous voudrez. Et derrière cela, c'est d'être en bonne santé, une bonne santé financière. Et ça aussi, c'est souhaitable dans un certain sens. Mais même si on n'est pas en bonne santé financière, on sait que le Seigneur a dit, « Je suis avec vous et je suis le bon berger qui pourvoit à tous vos besoins. » Alors, ce n'est pas non plus de cela que nous voulons vous parler ce matin. C'est plutôt de votre santé spirituelle. Et si vous êtes en bonne santé spirituelle, et si vous continuez à progresser dans votre santé spirituelle par rapport à 2018, mais 2019 va être la meilleure année de votre vie. Et quand nous arrivons à 2020, et vous continuez à progresser dans votre santé spirituelle, mais aussi 2020 sera la meilleure année de votre vie. Alors, comment mesurer? Comment mesurer quand on parle de santé spirituelle? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour mesurer si nous sommes en bonne santé spirituelle? Mais j'aimerais vous suggérer qu'on peut parler de victoire et de défaite. Et comme vous savez, nous sommes dans une guerre spirituelle. Le moment que nous avons dit oui à Jésus, les ennemis de Dieu, nous sommes entrés dans le camp de Dieu et les ennemis de Dieu sont devenus aussi nos ennemis, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, nous sommes dans un combat spirituel tous les jours. Où est-ce que nous combattons contre la chair, nous combattons contre le monde et nous combattons contre le diable? Et si vous voulez savoir si vous êtes en bonne santé spirituelle, mais c'est à cause de vos victoires par rapport à vos défaites. Et plus que vous gagnez de batailles et des conflits dans ces trois domaines, mais plus que vous êtes en bonne santé spirituelle, plus que vous avez de défaites, mais là, ce n'est pas trop bien, votre santé ne va pas trop bien. Alors, pour 2019, pour être sûr que cela soit la meilleure année de votre vie, tout d'abord, il faudrait tout d'abord conserver, garder le progrès que vous avez fait en 2018 et progresser dans peut-être d'autres domaines où vous avez eu un peu de difficultés. Et là, 2019 sera une meilleure année que l'année 2018. Si vous avez eu une année catastrophique et en 2018, vous avez été rétrograde, et vous pouvez vous souvenir de d'autres années antérieures où vous pouvez dire, « Ah, ça, c'était la meilleure année de ma vie. » Mais en ce moment-là, pour que 2019 soit la meilleure année de votre vie, il faudrait regagner le terrain perdu et ensuite faire des progrès pour justement que 2019 devienne la meilleure année de votre vie. Alors voilà. Est-ce comme... J'aimerais vous dire, c'est très important parce que dans ce que vous allez faire dans votre santé spirituelle, il y a un impact. Vos victoires et vos défaites, l'impact de cela dans votre relation avec Dieu. Les victoires que vous allez acquérir aussi dans vos relations les uns avec les autres. Et aussi les victoires et les défaites que vous subissez ont un impact aussi sur votre relation avec vous-même. Et nous allons développer cela un peu plus tard. Alors la question se pose maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que nous pouvons faire pour que 2019 soit la meilleure année de ma vie, même aussi, ça c'est individuel, mais aussi le souhait que ici, dans l'église de Cap-Nabalen, 2019 soit la meilleure année de la vie de l'église dans la collectivité. Alors, j'aimerais vous suggérer tout d'abord que la première chose, connaître l'histoire d'Israël. Et peut-être vous allez me dire, mais écoute, c'est quoi le rapport, ou comme les jeunes disent, c'est quoi le rap, là, entre avoir la meilleure année de ma vie et l'histoire avec les enfants d'Israël. Soyez patients, vous allez voir chemin faisant. Alors, connaître l'histoire d'Israël, c'est un élément clé si vous voulez que 2019 devienne la meilleure année de votre vie. Alors, en parlant des enfants d'Israël, on va commencer juste pour vous mettre dans le contexte. C'est très important. Israël, c'est le nom donné aux descendants de Abraham. Et rapidement, vous savez, Abraham a eu un fils, son nom est Isaac, le fils de la promesse. Isaac a eu aussi un fils, Jacob et Ésaü, mais la promesse que Dieu avait fait à Abraham passe par Jacob. Et Jacob, à un moment donné, chemin faisant, son nom a été changé. Il devient Israël. Et les descendants, justement, de Israël, Jacob, nous les appelons les enfants d'Israël. Vous avez les 12 fils de Jacob. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Pour faire une longue histoire courte, il y a une famine dans le pays de Canaan. Ils s'en vont s'installer dans le pays d'Égypte. Et là, ils deviennent une grande nation. Alors ça, c'est le contexte de notre histoire ce matin. Et plusieurs années avant cela, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il a dit, et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants, alors les enfants d'Israël, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, seront esclaves, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ça veut dire l'Égypte. À la quatrième génération, ils le reviendront ici. » Alors, Dieu avait déjà préparé un meilleur avenir pour son peuple. Dans le contexte ici, où est-ce qu'on commence? Israël est dans l'esclavage, Israël est dans la servitude. Les années, si vous voulez dire, sont des mauvaises années. Mais Dieu avait un plan pour que les années futures deviennent les meilleures années dans la vie des enfants d'Israël. Et vous allez voir maintenant le parallèle avec ce que nous voulons retirer de notre enseignement ce matin. Et pourquoi est-ce que Dieu veut faire cela? Tout d'abord, il parle justement de cet héritage qu'il veut donner aux enfants d'Israël. Dieu parle d'une terre, la terre promise, Canaan, c'est un héritage. Et Dieu va leur dire ceci, Moïse va le dire, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Alors, ils sont esclaves en Égypte, connaissent des mauvais jours, mais il y a le meilleur qui s'en vient. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance et tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fin, hein, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Alors ça, c'est l'héritage Canaan, un pays que Dieu promet aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent connaître justement les meilleures années de leur vie. Sortir de l'esclavage, sortir, pour ainsi dire, une vie de défaite, justement, pour aller dans un état d'abondance, c'est le plan de Dieu pour Israël. Et pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Parce que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. C'est pas pour amour et pas grâce que Dieu va justement préparer cet meilleur avenir pour Israël. Ce n'est point que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, mais parce que l'Éternel vous aime. Et parce que Dieu aimait justement ce peuple-là, les descendants d'Israël, les enfants d'Israël. Par sa grâce, il a préparé un meilleur avenir pour eux, cet héritage Canaan, la terre promise. Une autre chose aussi, pourquoi Dieu fait cela, c'est parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait fait une promesse à Abraham, et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, c'est Dieu, justement, mettre ses plans en exécution. Une autre chose aussi, parce que Dieu est un Dieu qui a le désir de bénir. C'est inné dans sa personne de, justement, déverser la bénédiction sur sa création. Il voudrait que Israël, les enfants d'Israël, aient justement une abondance. Il, Dieu, te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton huile, les portées de ton gros et ton menu bétail. Tu seras béni plus que tous les peuples. Dieu s'est associé avec Israël, les enfants d'Israël, et Dieu aussi, en même temps, veut ajouter une bénédiction terrestre pour ce peuple qui est associé avec lui. Et Dieu aussi veut que, non seulement que Israël soit un peuple affluent, mais aussi influent. Et Dieu va le dire ceci, « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Et par ce témoignage-là, les nations allaient voir comment est-ce qu'est béni et influent un peuple dont l'Éternel est Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu pour donner à Israël un meilleur avenir. Et pour accomplir cela, Dieu va mettre maintenant en branleur justement ce plan par, justement, commençant en les délivrant de l'esclavage. Il va dire à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour quoi le délivrer de la main des Égyptiens. » Ils sont esclaves. Dieu a préparé un meilleur avenir pour son peuple. Comment est-ce qu'il va faire cela? Par les délivrer justement de la main des Égyptiens. Et là, vous avez une image. Après plusieurs plaies, comme on nomme les 10 plaies d'Égypte, le 10e plaie où est-ce que Dieu va utiliser une méthode, une manière pour justement faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, où est-ce qu'il va demander aux enfants d'Israël de prendre un agneau, de le tuer, d'appliquer le sang sur les linteaux et sur les portes. L'ange destructeur va rentrer dans le pays. Et Dieu a dit à Moïse, « Quand je verrai le sang, je vais passer par-dessus vous. » Protéger, mais c'était aussi la façon de les délivrer, parce qu'après cela, Pharaon va les chasser de l'Égypte. Et les enfants d'Israël maintenant quittent l'Égypte, les mains hautes, libérés justement du joug de l'esclavage, ils s'en vont justement vers quoi leur destination, le pays de Canaan. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alors, sorti de l'esclavage, délivré, destination vers un pays d'abondance et la vie est belle. Les années antérieures sont oubliées, les défaites, l'esclavage, la servitude, les années dures, ils s'en vont maintenant pour que la vie soit meilleure, ce soit les meilleures années de leur vie. Mais vous connaissez l'histoire. Chemin faisant, il y a une problématique, il y a une défaite. À cause de quoi la désobéissance? Quand c'était le temps de rentrer dans la terre promise, dans le pays de Canaan, de prendre possession justement de cet héritage que Dieu a promis, il y a 12 espions qui s'en vont justement à explorer le pays. Ils reviennent et il y en a 10 entre eux qui vont donner un mauvais rapport au peuple. Et à cause de cela, Israël refuse, désobéit à Dieu, refuse justement d'entrer dans leur héritage, dans la terre promise, et part justement de retourner en Égypte. Alors, Dieu intervient et le peuple passe sur un jugement. Ils ont pris 40 jours pour explorer le pays. Alors Dieu juge le peuple et va lui dire, vous allez maintenant errer dans le désert 40 années. Une année pour chaque jour. Et cette génération ici, il va leur dire, entre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les canaves tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il ne entrait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Retenez ce mot, c'est très important. C'était la raison pour laquelle ce peuple-là qui avait un meilleur avenir, glorieux devant eux, n'a pas pu jouir justement de ce que Dieu avait préparé pour eux à cause de leur incrédulité. Et cette génération, Dieu a dit, non, vous n'y entrerez pas, vous allez errer dans le désert, vous allez mourir dans le désert, et votre incrédulité va faire en sorte que vous êtes privé justement de la terre promise. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, suite à cette défaite-là, il y a, comme je dis, 40 ans dans le désert, et manifesté par l'idolâtrie, il y a l'immoralité sexuelle, il y a la provocation de Dieu, il y a des murmures et surtout des murmures. Si vous lisez le livre des Nombres, combien de fois nous lisons, et les enfants d'Israël murmura contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu, et ça ne finit pas, c'est toujours pourquoi. Toujours cette idée, cette agressivité, cet mécontentement. C'était, et comme je dis ici, les années passaient et se ressemblaient. Il n'y avait pas l'idée que 2019 va être meilleur que 2018. Toutes les années étaient pareilles parce qu'ils étaient en train de tourner en rond, toujours dans le même scénario, dans le même pétrin. Une vie vraiment difficile, une expérience désertique. Désertique, sans doute, dans le sens physique, mais désertique aussi, surtout dans le sens spirituel. J'imagine que ce peuple-là, qui avait connu justement la puissance de Dieu, qui avait vu justement son œuvre en Égypte contre les Égyptiens, et comme à la mer Rouge, quand ils ont chanté justement la gloire du Seigneur, quand ils ont vu la main puissante, et là, un peuple qui s'éclate en louange, nous le voyons ici dans le désert, la sécheresse dans l'âme. Et nous ne lisons jamais qu'Israël chante dans le désert. L'apôtre Paul va dire ceci, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nouée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et c'est pourquoi je vous ai dit au début, si nous voulons que 2019 soit meilleur que 2018 ou n'importe quelle autre bonne année que nous avons vue, il faut connaître l'histoire des enfants d'Israël. Parce que l'histoire d'Israël est plus qu'un récit intéressant. Israël est un type du croyant. Et nous avons des leçons importantes à apprendre de ce peuple-là qui était en esclavage, que Dieu avait déployé son bras puissant pour les sortir de l'Égypte. Et pourtant, à cause de leur incrédulité, n'ont jamais entré pour jouir de l'héritage que Dieu avait réservé pour eux. Alors que 2018 soit la meilleure année de ma vie, connaître l'histoire d'Égypte, mais connaître votre propre histoire. Je dois connaître ma propre histoire. Premièrement, avant de connaître Christ, la ressemblance est frappante. Esclave comme Israël aussi en Égypte. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Et si vous lisez Romains chapitre 8, l'apôtre Paul va revenir après maintes et maintes et maintes fois et parler justement de cet état de celui qui, sans Christ, est esclave du péché. Il pense qu'il est libre, mais il est conduit par sa chair et il est en train de servir justement la chair, il est esclave. Et ça, comme les enfants d'Israël, ça c'était notre portrait aussi avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu est gracieux. Dieu est amour. Et juste comme il l'a fait pour Israël, à cause de sa grâce et de son amour, il y avait un plan pour délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu aussi a mis en action un plan pour nous délivrer de l'esclavage du péché. C'est la croix. Et le texte nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, ayant été affranchis, libérés du péché. » Romains 6, 17 et 18. « Jésus-Christ, celui qui nous a aimés, qui nous aime, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » En Égypte, on tue un animal. On met le sang sur le linteau et sur la porte. L'ange destructeur vient, il voit le sang, il passe par-dessus. Israël est épargné et Israël sort libre d'Égypte. Même chose pour nous. Mais cette fois-ci, il y a un sang qui est beaucoup plus précieux. C'est le sang de Jésus-Christ. Et quand nous avons accepté Christ comme notre sauveur, Dieu nous voit à travers le sang de son Fils. Et le jugement qui devrait tomber sur nous, comme nous lisons dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, délivrés par le sang de Christ, et nous ne devrions pas avoir honte de prêcher, de parler du sang de Christ, c'est de prier, payer pour notre rachat, parce qu'une âme est précieuse. Et nous ne pouvons rien donner dans ce monde pour justement nous sauver de la pénalité du péché. Mais l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui ôte le péché du monde, a pris notre place. Sans sang a coulé. Et à cause de ce sacrifice, Dieu peut pardonner maintenant le pécheur qui se confie en lui et de le libérer aussi, comme en Israël, du péché. Mais nous avons ici une petite différence. Israël, c'est un peuple terrestre. Dieu a préparé un héritage pour Israël. C'est la terre promise Canaan. Ils sont allés là. Nous, par contre, nous avons aussi la même chose. Nous avons une destination finale éternelle, c'est le ciel. Mais, en chemin faisant, nous avons une destinée. Le pays de Canaan ne représente pas le ciel. Ça, c'est faut être très clair là-dessus, parce qu'il n'y aura pas d'ennemis à combattre au ciel. Israël rentre en Canaan. Et comme nous allons voir dans le message, série de messages que nous devons préparer, et des combats. Il n'y a pas de combat au ciel. Qu'est-ce que c'est alors notre destinée? Canaan est plutôt un portrait de la vie chrétienne abondante et victorieuse, vécue dans la plénitude de l'esprit, la vie que Dieu désire pour tous ses enfants. Souvent, on pense que ce type de vie est réservé aux élites, aux pasteurs, aux anciens, et ainsi de suite. Mais cette vie chrétienne, abondante, victorieuse, est pour tous les enfants de Dieu. Voici les textes sur lesquels je m'appuie. Je, Jésus, a dit ceci, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Une vie chrétienne extraordinaire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça, c'est le destin, la destinée que Dieu, quand nous a délivrés, comme les Égyptiens, de l'Égypte, avec justement un héritage qui était avant eux, Dieu aussi nous a préparé un héritage spirituel. Deux phases. Au ciel, c'est notre destination finale, nous allons être semblables à Jésus-Christ, mais ici, bas sur la terre, ça a déjà commencé. Et Dieu veut maintenant que nous entrions dedans. Et vous allez dire, OK, comment est-ce que je peux reconnaître eux? Et comment est-ce que je peux même savoir si je suis en train, comme Israël, de progresser et justement d'être en train de jouir de cet héritage spirituel que Dieu veut pour moi? Tout, dans un premier temps, la vie abondante dans la plénitude d'esprit caractérisée par l'adoration. Ça, c'est une chose que Dieu donne à chacun de nous pour justement que nous puissions jouir de notre héritage spirituel. Et ça, c'est le but pour lequel nous avons été créés. Adorer Dieu, et nous avons dans Jean chapitre 4, Dieu cherche les adorateurs, qu'il adore quoi? En esprit et en vérité. Alors, ce n'est pas une vie, comme des fois les gens, quand on en parle de remplir d'esprit, une vie abondante, mais là, ils pensent, oh, ça va être une vie plate. C'est quelqu'un qui passe toute sa journée à lire la Bible, qui passe justement toute sa journée à prier, puis il n'y a pas de fun, il fait rien que ça. C'est pas ça que je veux dans ma vie chrétienne, mais c'est pas ça du tout. Cette vie abondante, remplie d'esprit, est une vie vraiment où est-ce qu'on est épanoui, une vie d'abondance, une vie où est-ce que justement cette communion, cette intimité avec Dieu va déborder dans une vie d'adoration, où est-ce que nous sommes des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Il y a aussi le service, parce que le Saint-Esprit nous donne des dons. C'est toujours dans la plénitude de l'Esprit. Et quand quelqu'un, justement, est en train de vivre cette vie abondante, remplie d'Esprit, il va mettre le don qu'il a reçu au service des autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons que les dons sont donnés par l'Esprit Saint. Et Dieu veut aussi que nous entrions dans cette vie et nous mettions au service. Et quand vous faites cela et vous êtes en train de vous servir et d'utiliser votre don au service des autres, je peux vous dire que c'est une vie gratifiante. Si vous voulez être justement épargné de murmures et de chiolages, mettez au service des autres, servez les autres. Vous allez voir comment est-ce que vous aussi, vous allez en bénéficier. La troisième chose, c'est le fruit de l'esprit. C'est pour vous-même, c'est pour nous-mêmes. Quand nous vivons dans la plénitude de l'Esprit, quand nous vivons cette vie abondante, le fruit de l'Esprit est dans notre vie. Qui parmi nous ne voudrait pas être caractérisé par l'amour? L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. D'être un chrétien qui est joyeux, malgré les circonstances, c'est ce que Dieu veut nous donner, cet héritage, cette abondance, d'avoir la paix dans notre vie, même si les circonstances disent le contraire. Et de ne pas être terrassé toujours par ce qui se passe, d'avoir la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est toutes les choses, notre héritage spirituel que Dieu veut justement que nous ayons. Quelqu'un qui a ça, là, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau. Et qu'importe ce que la vie apporte, cette personne est bien dans sa peau et cette personne jouit de la vie malgré les difficultés. Autre chose aussi, dans ce contexte, comme je vous ai dit, quand on est dans un combat, et le but des ennemis, c'est justement de nous dérober, justement, de nos victoires, et aussi d'amener l'autre côté de la médaille. Les œuvres de la chair, immoralité, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division. Ce sont des choses qu'on aimerait éviter. Ce sont des choses qui ne devraient pas avoir de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas notre héritage, ça. Et si vous voulez avoir quelque chose qui va vous enlever votre joie dans le Seigneur, votre joie de vivre, votre joie d'être heureux dans le Seigneur, c'est des choses de la chair. Et comment est-ce qu'on peut vaincre cela, mais sinon la plénitude de l'esprit et pas en train de vivre la vie abondante. Et aussi la victoire sur le monde et le diable. Et ça, c'est notre héritage terrestre, notre Canaan spirituel. Voyez les parallèles. 2019, pour qu'elle soit meilleure que 2018, il faut connaître la vie d'Israël et en retirer les leçons. Connaître notre propre histoire que Dieu nous a amenés de notre servitude. Et Dieu nous a préparé aussi un destin, un Canaan spirituel, où est-ce qu'il veut que nous vivions dans l'abondance, dans la plénitude de l'Esprit. Quelqu'un a dit ceci, M. Redpath, notre salut commence par la régénération et la justification. Ça, c'est vrai. Sur ces deux fondements s'élève la superstructure de la sanctification. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé de la vie abondante et victorieuse dans la plénitude de l'Esprit. La plupart des croyants manquent le but, se contentant d'une expérience désertique. Ils sont justifiés, mais ils ne sont pas en train de jouir de la possession, de l'héritage en Christ. Et tout ce que je vous ai montré, Dieu veut cela pour chacun de vous. C'est votre canal spirituel. La vie abondante dans la plénitude de l'Esprit. Alors, comment est-ce qu'on peut, je reviens à la question que je vous ai posée maintenant, pour que 2019 soit meilleur que 2018, pour que vous gardiez ce que vous avez obtenu des victoires et progresser encore plus, jouir encore plus de cet héritage spirituel que Dieu a pour vous, qui est possible parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Et le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient l'est en abondance. Ce n'est pas quelque chose qui... C'est possible parce que Dieu le veut. Le Saint-Esprit est en vous. Mais la question que je pose, est-ce que vous, vous le voulez? Est-ce que moi, je veux l'avoir? Pour nous aider, connaître l'histoire d'Israël, la deuxième génération. Parce que où la première génération a failli, ils ne sont pas entrés à cause de la incrédulité, Dieu est fidèle. Et cette nouvelle génération, après que tous les cadavres des premières générations sont tombés dans le désert, Dieu revient à la charge et cette nouvelle génération va entrer justement et prendre possession de l'héritage que Dieu avait préparé pour eux. Alors, pour nous aider et pour nous donner des clés, parce que je vous dis, il y a un parallèle frappant entre Israël et le croyant. Et dans leur histoire, il y a une deuxième génération qui va rentrer maintenant dans leur héritage spirituel, plutôt terrestre, et qui vont prendre possession de ce pays, ce bon pays où coule le lait et le miel, que Dieu a dit, je vous donne cela. Vous allez être dans l'abondance, vous allez vraiment jouir de ce pays-là. Mais il y a des principes qu'il faut mettre en pratique pour que nous aussi nous puissions entrer dans notre vie abondante, dans la plénitude d'esprit, pour jouir aussi de tout ce que je vous ai montré tantôt. Alors, pour cela, nous avons préparé une étude sur le livre de Josué. Même le titre devrait nous encourager, parce que le titre Josué veut dire « Dieu est salut ». Et vous savez, le salut que Dieu nous a donné est plus que juste Jean 3,16. Merci Seigneur pour Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça, c'est sauver de la pénalité du péché. Mais il y a plus que cela. C'est sauver du pouvoir du péché. C'est de jouir de notre héritage dans la plénitude de l'Esprit, d'être un adorateur de Dieu, d'être un serviteur de Dieu, d'avoir le fruit d'Esprit dans ma vie, d'être quelqu'un qui est épanoui en Jésus-Christ, d'être quelqu'un qui est en train de vivre pleinement la vie chrétienne, d'être quelqu'un qui est un outil entre les mains du Seigneur pour accomplir sa volonté. Ça, c'est la vie qui est riche, qui est abondante. Ça, c'est notre héritage spirituel. Et il y a des parallèles, comme j'ai dit, il y a des principes importants, justement, parce que c'est aussi une vie de combat. Quand Israël arrive pour prendre possession de leur pays, les ennemis qui sont là déjà, les nations qui sont là, ils ne sont pas comme se mis sur le dos et dire, ah, si un peu des fois on apprend à nos chiens, on dit, fais le mort, là, puis fais comme ça. C'est pas ça, comme en anglais. On dit souvent, they're not going to roll over and play dead. Il faut qu'ils combattent. Et cette vie abondante dans la plénitude de l'esprit, les ennemis, la chair, le diable, le monde, vraiment va acharner contre le chrétien pour l'empêcher de jouir de sa plénitude, et son héritage spirituel. Mais comme je dis, les enfants d'Israël, la nouvelle génération, entrent en Canaan et à travers des combats prennent possession de leur héritage. Alors, nous avons préparé une étude pour vous démontrer qu'il est possible, en mettant en application ces principes, que 2019 soit la meilleure année de votre vie. Trois grandes divisions, les chapitres 1 à 5, l'entrée dans le pays et tout ce que cela implique. Deux messages tirés de cette section. Et si ce matin, vous êtes dans le désert et votre vie chrétienne est en dents de scie, et la sécheresse, je ne vous dis pas cela pour vous accuser pour vous faire sentir coupable. On passe toujours par ces périodes-là. Ou est-ce qu'on n'a pas cette joie de vivre? Et on est en train de vivre, comme je dis, une expérience désertique comme Israël. Mais cette section, vraiment, vous devriez porter attention parce qu'il y a des principes importants là qui vous montrent comment entrer et jouir de votre possession, comment entrer dans votre canal spirituel et prendre possession justement de ce que, tout ce que Dieu a pour vous. Deuxième section, 6 à 21, la conquête du pays à travers de nombreuses batailles et la distribution du territoire. Deux messages tirés de cette section. Et finalement, la deuxième, troisième section, chapitre 22 à 24, les dangers et les périls auxquels il faut faire face afin de garder le territoire conquis et demeurer victorieux. Ça, c'est très important aussi. Quand vous avez gagné des batailles, faites attention, parce qu'il y a toujours ces attaques qui viennent pour justement faire en sorte que vous allez être tassé ou comme un peu comme Israël. Et alors, on verra comment justement rester avec ce que nous avons et progresser toujours. Et on va avoir un message sur cette section. Alors, en terminant, vous savez, des fois, les gens disent, « Ah, je ne prends pas de résolution pour la nouvelle année parce que je sais qu'après quelques mois, peut-être même quelques semaines, ça va tomber à l'eau. » Mais si vous voulez avoir la victoire et si vous voulez que 2019 devient la meilleure année de votre vie, il va falloir que vous preniez une résolution. Par la grâce de Dieu, 2019 sera la meilleure année de ma vie. Si vous n'en prenez pas, vous êtes certain que vous n'allez pas avancer. Et pourquoi est-ce qu'on devrait prendre cela? Parce que c'est une résolution qu'on peut garder parce que le Seigneur est avec nous. Et c'est ce que le Seigneur veut pour vous, c'est ce qu'il veut pour moi, que 2019 soit la meilleure année de notre vie. Deuxième chose, un rappel. Je vous laisse avec un texte pour vous préparer pour la série de messages à venir. Je vous invite à le mémoriser. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, dans le sens comme Israël dans le désert. Mais si par l'esprit encore, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez et vous allez jouir pleinement de votre héritage spirituel. Et Dieu n'a pas payé un si grand prix pour me sortir d'Égypte pour que je meure dans le désert. Le prix de son Fils, pour que vous puissiez jouir de votre héritage spirituel. C'est ça que Dieu veut pour vous. Et troisièmement, un réveil. Seigneur, utilise ce livre, cette étude qui s'en vient, des 5 messages, un prière personnelle pour accomplir un réveil dans ma vie, mais aussi dans la collectivité. Si nous mettons en pratique les principes que nous allons voir dans Josué pour remporter des victoires, parce qu'à travers ce livre, on voit Israël qui rentre. Ça, c'est le pays que Dieu leur a promis, c'est son héritage. Ils s'en vont, ils vont s'emparer. Et Dieu leur donne la victoire. Et vous avez un héritage, moi j'ai un héritage. Dieu veut nous donner justement cette vie abondante, remplie d'esprit. Et nous devrions désirer et demander au Seigneur, justement, par sa grâce, de nous aider à prendre possession de notre canal spirituel. La semaine prochaine, on va avoir le premier message dans cette série, 2019, la meilleure année de ma vie. Vous pouvez déjà commencer avec ces 3 choses en vous demandant, en demandant au Seigneur de vous préparer, votre cœur pour que les paroles trouvent un écho favorable dans votre cœur, dans mon cœur, et pour que 2019, alors à cause des victoires que nous allons remporter ensemble, que 2019 soit la meilleure année de notre vie. On va prier. Amen. Seigneur, merci et merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci de nous avoir, oui, sorti de l'Égypte dans notre esclavage spirituel. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. En attendant que tu viennes nous chercher, Seigneur, tu nous as laissés ici sur la terre. Et nous sommes dans une guerre spirituelle. Il y a des combats à remporter. Et ce matin, nous voulons, comme Josué et les enfants d'Israël, nous voulons justement entrer dans notre pays et notre canal spirituel. et Seigneur, prendre possession de tout ce que tu as préparé pour nous en Jésus-Christ. Alors Seigneur, prépare nos cœurs, donne-nous le courage, donne-nous la force, donne-nous Seigneur le désir de remporter ces victoires, sachant que tu es avec nous et qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur, s'il y a quelques-uns de nous ce matin qui sont toujours en Égypte, dans l'esclavage du péché, on te demande, Seigneur, d'avoir pitié de ces personnes, d'ouvrir leurs yeux, leurs intelligences, montrez-leur que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, afin qu'ils puissent venir au pied de la croix et d'être délivrés par le sang de l'agneau de leurs péchés. Seigneur, sépare-nous avec ta bénédiction, que ta grâce repose sur nous. Et Seigneur, donne-nous à vivre pleinement cette vie et cette vocation à laquelle tu nous as appelés, pour que nous puissions te glorifier et que nous puissions aussi avoir un impact dans cette génération qui s'en va à la perdition. Sépare-nous avec ta bénédiction. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen.